إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa grâce l'explication du livre du Tawhid, du livre de l'unicité, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Nous en sommes au chapitre numéro 3. Dans certaines éditions ce sera chapitre numéro 4. Le fait de craindre le polythéisme. Le fait de craindre le polythéisme. Ce chapitre, il vient juste après le chapitre qui parle du fait de réaliser pleinement, complètement le tawhid, que celui qui réalise, quiconque réalise complètement le tawhid, entrera au paradis sans jugement. Et la réalisation complète et parfaite du tawhid ne peut se faire et ne peut s'atteindre sans craindre le polythéisme, sans craindre le shirk. Ainsi, celui qui craint le shirk, le polythéisme, cherchera par tous les moyens à s'en éloigner et à s'en écarter, en s'informant à son sujet, en s'informant et en apprenant le sens du polythéisme, ses différentes catégories, afin de ne pas sombrer dans ce péché terrible, dans ce péché terrible, qui est le plus grand des péchés. Puis, le cheikh a cité la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, il a dit donc le chapitre du fait de craindre le polythéisme et de la parole d'Allah, le Très-Haut, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah tabarak wa ta'ala affirme que le jour du jugement dernier, il ne pardonnera pas à celui qui se présente à lui avec du polythéisme et qui ne s'en est pas repenti avant la mort. Certains savants de l'islam ont affirmé que le polythéisme qui est réfuté ici englobe toutes les catégories de polythéisme. Le polythéisme majeur, le polythéisme mineur et le polythéisme caché. C'est-à-dire qu'aucun type de ces polythéismes ne sera pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala sauf en cas de repentir. Tout cela est dû à la gravité de ce péché énorme qui est le polythéisme. Étant donné que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé cet être humain, cette créature, et qui lui octroie sa subsistance, qui lui donne, qui lui fait part de ses grâces, alors comment son cœur peut-il se détourner de lui et s'orienter vers un autre que lui, subhanahu wa ta'ala? Cette position, elle est soutenue par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et son élève, l'imam ibn al-Qayyim, ainsi que le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, puis la majorité des savants qui ont porté la da'wa de Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab après lui, que ce soit ses enfants, ses petits-fils et les élèves de Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qui ont porté la da'wa du tawhid jusqu'à nos savants éminents que l'on connaît, qui sont décédés il n'y a pas longtemps, comme Cheikh ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin et d'autres, rahimahumullah ta'ala. Donc, que veut dire cet avis-là? Ça veut dire que si le polythéisme de quel catégorie qu'il soit, si on considère qu'il n'est pas pardonné, alors cela doit obligatoirement engendrer une immense crainte quant à son égard. De même, si l'ostentation, le serment par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de porter une amulette, un anneau ou un fil protecteur ou porte-bonheur, le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, si tout cela n'est pas pardonné, alors cela implique nécessairement qu'il faut en éprouver la plus grande crainte. Alors, il est plus à même de craindre le polythéisme majeur. Il est plus à même de craindre le polythéisme majeur et de s'informer sur les différentes sortes et les différents types de polythéisme pour s'en préserver. D'ailleurs, comme il est rapporté dans le Bukhari et Muslim, Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, a dit, les gens questionnait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, alors que moi, je le questionnais à propos du mal, de peur qu'il ne me touche. De même qu'il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'il a dit, chaque anse de l'islam sera détruite et défaite une par une si les gens grandissent en islam sans avoir connaissance de la jahiliya. Effectivement, dans certains pays musulmans particulièrement, où l'enseignement était l'enseignement du tawhid et de la sunna depuis leur enfance, mais parfois, beaucoup d'entre eux n'ont pas pris garde du shirk, du polythéisme, n'ont pas trop pris garde des péchés, des déviances, des perversités qui existent. Alors comme ils ne les connaissaient pas, ils étaient très naïfs et insouciants concernant ces égarements, ces innovations. Alors une fois que Shaytan, les shayatines, hommes et djinns ont fait tous les efforts pour faire pénétrer les passions, les péchés, les déviances dans ces pays-là, ils ont tous couru la tête la première, sauf à qui Allah a fait miséricorde. À cause de leur naïveté, à cause du fait qu'ils ne connaissaient pas le mal, alors ils n'ont pas pu s'en préserver. Connaître le mal, cela ne veut pas dire aller le fréquenter, ou bien le tester, ou s'en approcher, non. Mais connaître ce que l'islam en dit, connaître les différents types d'égarements, les différents péchés que l'islam interdit, et leur gravité dans l'au-delà, ainsi que leurs méfaits dans ce bas monde, et les différents chemins que Shaytan emploie pour faire pénétrer ce mal dans la communauté, que ce soit les shayatines, hommes ou djinns. De cette manière-là, la personne, elle peut faire toutes les causes pour s'en préserver, comme nous a enseigné ce noble compagnon, Hudayfa ibn al-Yaman, et le calife, l'imam, Omar al-Farouq, radiallahu anhum, qu'il faut connaître le mal pour en être préservé. Puis le cheikh a cité la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, concernant l'ami proche d'Allah, Ibrahim, alayhi salatu wa salam, où il a dit, وَجُنُوبِنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. Mon Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup de gens. Allahu Akbar. On voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'imam des muwahidin après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam des prophètes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui dont Ibrahim al-Taymi rahimahullah a dit, qui peut espérer être préservé de l'épreuve après Ibrahim? Oui, qui peut donc être préservé de l'épreuve après Ibrahim? L'imam des Hunafa. On a expliqué al-Hanif dans le dernier cours, qu'est-ce que ça voulait dire. Et on a parlé de la vertu de Ibrahim alayhi salatu wassalam quand on a parlé de ceux qui concrétise complètement le tawhid. Et le père des prophètes, celui qui était à lui seul un guide, constamment dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'éloignant du mal et penchant vers le bien, et qui ne faisait pas partie des associateurs. Il avait peur pour sa personne ainsi que pour ses enfants après lui. Il avait peur de l'adoration des statues. Alors il demande à Allah tabaraka wa ta'ala, il invoque Allah et il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de l'adoration des statues, alors que c'est lui qui a cassé de ses mains les statues. Et c'est lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé avec des paroles et il les a accomplis. Et c'est lui qui a honoré ses engagements alayhi salatu wassalam. Malgré ça, il craint le polythéisme. Il a peur du polythéisme. Et Il craint d'être éprouvé, de tomber dans le polythéisme. Alors il s'en remet à Allah, son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en disant, mon Seigneur, fais que cette contrée soit une contrée sûre et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statues. Mon Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup de gens. Tout ceci était la parole de Ibrahim Taymi, rahimahullah. De même, le prophète Yaqub, alayhi salatu wassalam, il est sur son lit de mort, et il demande, Ya baniya, ma ta'buduna min ba'di. Oh mes enfants, qu'allez-vous adorer après moi? Il veut s'assurer qu'ils ne vont adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala et ne pas donner d'associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour où il a été envoyé jusqu'à quelques heures avant sa mort, il a mis en garde sa communauté contre le shirk, contre le polythéisme. Et on a des gens aujourd'hui qui disent, oh, toujours kitab tawhid, toujours salatatul usul, ça y est, c'est bon, on connaît. Il n'y a personne maintenant qui adore les statues, qui adore les tombes. Déjà, celui qui dit ça, c'est un menteur, car il y a beaucoup de gens, la majorité des gens sur Terre, adorent des statues et des divinités en dehors d'Allah. Rien que vous allez en Asie, il y a combien de milliards de personnes? Ils adorent quoi, ces milliards de personnes? Sans compter toutes les fausses divinités que les gens ils ont pris en dehors d'Allah dans le monde entier. Et on ne parle pas de ceux qui s'affilient à l'islam et qui adorent les saints et les morts et les tombes et je ne sais quoi. Encore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les prophètes. Et après on nous dit non, il ne faut pas craindre le shirk. C'est fini ces problèmes-là. On va parler que de politique maintenant. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé d'Ibrahim alayhi salam qui a demandé à Allah de le préserver de l'adoration des asnam. L'asnam, c'est le pluriel de sanam. Sanam, il s'agit de tout objet qui a été façonné à l'image d'un être adoré. Que cette image contienne un visage ou non, le visage d'un homme, ou son corps, ou la tête d'un animal, ou l'image du soleil, ou l'image de la lune. Donc tout objet, statue, qui a été façonné à l'image d'un objet qui est adoré. Ça, c'est as-sanam, as-sanam. Et l'asnam, c'est le pluriel de sanam. Et il y a un terme plus large qui englobe l'asnam, qui englobe les statues, mais qui englobe aussi d'autres types d'idoles et de monuments adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce terme en arabe, c'est wathan, wathan. Donc par exemple, ceux qui adorent les tombes. Adorer une tombe, c'est pas un sanam. Une tombe, ce n'est pas une statue, mais c'est une idole et un monument adoré en dehors d'Allah. C'est un wathan. Donc c'est englobé dans cela. C'est englobé dans cela. Le shirk, il a des méfaits terribles. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, cite qu'il est obligatoire d'avoir peur du shirk. C'est une obligation pour le musulman de craindre le polythéisme. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le polythéisme. Que veut dire le polythéisme? Que veut dire le shirk? Le shirk, cela veut dire de donner un associé à Allah dans son adoration ou dans sa seigneurie ou dans ses noms et ses attributs, alors que c'est lui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Mais le shirk, c'est d'adorer un autre qu'Allah avec Allah. Et pire que cela, comme a dit Cheikh Ibn Baz, c'est celui qui adore autre qu'Allah, sans adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Il adore exclusivement autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les méfaits du shirk, ils sont nombreux. Et on peut les résumer en quelques points. Mais avant cela, nous allons d'abord définir les différentes catégories de shirk, les différentes catégories de polythéisme. La première catégorie, donc les savants, ou bien le présentent en deux catégories ou en trois catégories. La première catégorie, c'est le shirk al-akbar, le polythéisme majeur, qui veut dire que celui qui l'accomplit, s'il était musulman, en l'accomplissant, il a annulé son islam. À la différence du polythéisme mineur, qui est en général un moyen, tous les moyens qui mènent vers le polythéisme majeur, ou bien ce sont des actes, des paroles ou des croyances sur lesquels il y a des preuves du Coran et de la Sunna comme quoi elles ont été nommées en tant que polythéisme, sauf qu'ils n'arrivent pas à la limite de sortir la personne de l'islam. L'effet du shirk, du polythéisme, le polythéisme majeur, premièrement, il annule tous les actes. Celui qui fait un acte, ou une parole, ou une croyance, et parfois un doute, c'est suffisant, un doute qui fait sortir de l'islam, alors il a en cela annuler toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres, elles sont devenues nulles. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Dans Sourate Zumar, verset 65, dans le sens de sa parole, « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. » Donc, le polythéisme majeur annule toutes les œuvres. Ici, Allah Ta'ala met en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il lui a été révélé à lui ainsi qu'au prophète avant lui. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très loin de tomber dans le shirk, que ce soit majeur ou mineur. C'est lui, l'imam des monothéistes. Mais Allah Ta'ala montre, il t'a été révélé au Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes, que si tu me donnais quelconque associé, tes œuvres seraient vaines. Si ceci aurait été le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'allons-nous dire de toute personne après lui? Donc, la première chose, le polythéisme majeur annule toutes les œuvres. Deuxième point, celui qui commet le polythéisme majeur et ne s'en repent pas avant la mort, Allah ne lui pardonnera pas. Allah ne lui pardonnera pas. Troisièmement, comme on a vu dans le premier verset qu'on a cité tout à l'heure. Troisièmement, celui qui commet le polythéisme majeur sera privé d'entrer au paradis. Car Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, certes celui qui donne un associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa demeure sera l'enfer. Et quatrièmement, celui qui fait du polythéisme majeur et qui ne s'en repent pas avant de mourir, restera en enfer éternellement sans fin. Concernant le polythéisme mineur, celui qui ne fait pas sortir de l'islam, premièrement, il annule l'œuvre, mais pas toutes les œuvres. L'œuvre dans laquelle il a associé à Allah tabaraka ta'ala l'association mineure. Par exemple, il a fait cette œuvre par ostentation, pour Allah et en même temps pour plaire à des gens, par exemple. Pour qu'on parle de lui, pour gagner la renommée, pour un bien éphémère de ce bas monde, pour quoi que ce soit. Ceci est du polythéisme mineur qui annule l'œuvre dans laquelle elle est entrée. Elle n'annule pas toutes ses œuvres, elle annule cette œuvre-là. Deuxièmement, c'est un grand péché. D'ailleurs, c'est le plus grand des péchés, un des pires péchés. Troisièmement, selon un avis qu'on a cité, qui semble être le plus juste, qui est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Mohammed Ibn Abdel Wahhab et tous les savants qui ont fait la da'wa de Tawhid, la da'wa de Najdiya, et tous les ulama que l'on connaît aujourd'hui en Arabie, la majorité des grands savants sont sur cette parole de dire que même le polythéisme mineur, il n'est pas pardonné par Allah le jour du jugement dernier si la personne ne s'en repent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette personne, il méritera d'entrer en enfer à cause de cela. Et qu'il n'entre pas dans la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. » C'est-à-dire le reste des péchés en dehors du polythéisme sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne et il entre au paradis directement. Si Allah veut, il le châtiera par sa justice, puis il entrera au paradis plus tard. À la différence du polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. C'est-à-dire la personne qui le commet, il est mis en garde de subir le châtiment. Est-ce que cela veut dire qu'il va entrer quoi qu'il arrive en enfer? Non. Cela veut dire que c'est les péchés qu'il a faits, qui font partie du polythéisme mineur, ne seront pas pardonnés, donc ils seront mis dans la balance des mauvaises actions. Et il ne pourra échapper par la miséricorde d'Allah à l'enfer que si ses bonnes actions sont plus lourdes que ce péché-là. Comment faire pour avoir assez de bonnes actions pour être plus lourdes que le grave péché du shirk? Même s'il est mineur. On l'appelle mineur pas parce que sa gravité est moindre et n'a pas de gravité. Mineur par rapport au majeur qui fait sortir de l'islam. Donc, on comprend, si on comprend cela, on comprend la gravité et le pourquoi on doit craindre ce péché. Puis il a cité, rahimahullah, il dit, on trouve dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Lorsqu'on le questionna à ce sujet, il répondit, il s'agit de l'ostentation. Il s'agit de l'ostentation. Il faut savoir que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'ostentation mineure. Car pareil, dans l'ostentation, il y a la majeure, celle des hypocrites. Celui qui fait paraître l'islam alors qu'il cache la mécréance. C'est-à-dire, il ne croit pas du tout en l'islam. Mais devant les gens, il montre qu'il est musulman. Ça s'appelle un munafiq, un hypocrite, de l'hypocrisie majeure. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise l'ostentation mineure. La personne qui fait cela est mise en garde d'être châtié, comme on l'a dit auparavant. Et c'est un péché en vérité que beaucoup de gens peuvent ne pas y prêter une grande attention. Ils peuvent ne pas s'en soucier. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il redoutait le plus cela pour ses compagnons. Alors si, imaginez-vous, s'il redoutait le plus cela pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour sa communauté après lui. Alors qu'allons-nous dire nous? Puis il a cité le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer.
Jabir, rapporté par le Bukhari. Puis il a cité aussi, Muslim rapporte d'après Jabir, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. Donc ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, le fait d'invoquer un égal à Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est du polythéisme majeur. Peu importe la personne, il appelle ça une adoration, ou il appelle ça du tawassul, ou bien il appelle ça une intercession, il peut appeler ça même tawhid. C'est pas le nom qui compte. Ce qui compte, c'est la réalité de son œuvre. Si son acte est considéré comme du polythéisme majeur, il sort de l'islam. Surtout, polythéisme majeur, dans lequel beaucoup d'ignorants tombent, c'est l'invocation ou l'adoration des morts et des saints et du prophète en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'invocation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, l'invocation c'est l'adoration même. Donc quiconque meurt en vouant cette adoration ou toute autre adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des adorations du cœur, comme l'espoir, comme la confiance totale, comme la crainte révérentielle, comme l'amour. Il y a des gens qui aiment des créatures ou des statues ou des divinités autant qu'on aime Allah ou plus qu'on aime Allah. Ça c'est shirkul mahabba. C'est l'associationnisme, le polythéisme dans l'amour. Et c'est une mécréance et un polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Donc le shirk peut se passer avec le cœur, avec la langue, avec le corps. Quelqu'un qui se prosterne pour un mort ou pour un vivant en signe d'adoration, par amour et par exaltation et vénération et glorification pour lui, ça c'est du shirk. Akbar qui annule toutes les œuvres. Et si la personne ne s'en repent pas de son vivant, elle sera en enfer éternel. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer », c'est-à-dire éternellement. Non pas comme ceux parmi les mouahidines, les monothéistes, qui ont pu tomber dans certains types de polythéisme mineur, par faiblesse de leur tawhid, qui peuvent entrer en enfer, mais pour en sortir un jour, pour entrer au paradis éternellement. Pour en sortir un jour, et pour entrer au paradis éternellement. À la différence de celui qui fait un acte de polythéisme majeur, ceci annule son tawhid, et il annule son islam. Car l'islam, c'est le tawhid. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « en dehors d'Allah », c'est-à-dire qu'il adore avec Allah un autre qu'Allah. Mais ça ne veut pas dire que celui qui adore seulement autre qu'Allah, il n'est pas concerné. Celui-là, il est plus à même d'être concerné, car c'est pire. Dans le hadith de Jabir, dans une autre variante, il est venu que ce sont les deux obligatoires. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute sur cela. Celui qui rencontre Allah sans ne rien lui associer, Allah l'entrera au paradis. Et celui qui rencontre Allah en lui donnant un associé, Allah l'entrera en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer en enfer. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, cite qu'il y a certains polythéistes qui s'affilient même à l'islam et qui se fâchent encore plus quand on insulte leur cheikh ou une tombe que quand quelqu'un insulte Allah. Et qui se fâchent quand quelqu'un manque de respect à leur cheikh vivant ou mort, mais il accepte que les gens, ils manquent de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils lui désobéissent. Il est comme un lion féroce à t'attaquer si tu as désobéi à un ordre parmi les ordres de son cheikh, de sa divinité qu'il a pris en dehors d'Allah. Mais les gens devant lui, ils insultent Allah, ils désobéissent à Allah du matin au soir. Ça ne bouge pas son cœur, car le shirk a habité son cœur et le tawhid est parti. Car le polythéisme a habité son cœur et il a chassé le tawhid. Les paroles à la fin, ce sont les paroles d'Ibn al-Qayyim. On va finir par citer les points à retenir que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité. Premier point, le fait de craindre le polythéisme. Deuxième point, l'ostentation fait partie du polythéisme. Troisième point, c'est une forme de polythéisme mineur. Quatrième point, c'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint le plus pour les gens pieux. C'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint le plus pour qui ? Pour les gens pieux. Pour les gens pieux. Car effectivement, quand Shaytan n'a pas pu empêcher quelqu'un de faire des bonnes actions, il va venir l'annuler à sa base en venant le pousser à chercher par son action autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si à la base il le faisait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il lui donne des associés. Cinquième point, la proximité du paradis et de l'enfer. Sixième point, la mention faite de leur proximité respective dans un même hadith. Septième point, quiconque rencontre Allah sans lui avoir associé quoi que ce soit entrera au paradis, et quiconque le rencontre en lui ayant associé quelque chose que ce soit entrera en enfer, même s'il s'agit du plus dévoué des adorateurs. Allahu Akbar. Même s'il adore Allah jour et nuit, mais s'il lui associe l'association ou le polythéisme majeur, il entrera en enfer. Huitième point, le point le plus important, c'est-à-dire l'ami proche d'Allah, Ibrahim alayhi salam, demande à Allah de le préserver ainsi que ses enfants de l'adoration des statues. Neuvième point, Ibrahim alayhi salatu wassalam prend en considération l'état de la majorité des gens lorsqu'il dit « Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas » « Oh mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. » Dixième point, on trouve l'explication du sens de la formule « La ilaha illallah » comme l'a cité al-Bukhari, c'est-à-dire c'est-à-dire la négation et l'affirmation. Renier toutes les divinités adorées en dehors d'Allah et affirmer que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Onzième point, le mérite de ceux qui sont exempts de toute forme de polythéisme. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs pieux, sincères, monothéistes qui ont réussi à concrétiser et à réaliser le tawhid, le monothéisme et l'unicité dans sa complétude et qu'il nous préserve du polythéisme majeur et mineur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.